La Bible, parfum de scandale, une émission produite par Radio FM+, présentée par Babette Soulier-Laporte et Luc Olivier Bossé.
Oui. Bonjour Luc Olivier.
Bonjour Babette.
Contente de te retrouver.
C'est un plaisir partagé.
Donc en fait c'est une émission au cours de laquelle nous abordons des sujets un peu compliqués on va dire, qui sont des obstacles à la fois, c'est la définition de scandale qu'on préfère à « mon Dieu c'est scandaleux, c'est pas le genre de la maison ». Et donc je suis là, moi une paroissienne lambda qui interroge Luc Olivier qui est donc pasteur à l'église protestante Unie de Montpellier Agglomération.
Bravo.
Il ne faut pas dire Epuma. Voilà. Et donc, après avoir finalement abordé des textes qui, on dirait une série télévisée, franchement, un meurtre qui est un fratricide, Cain et Abel, un infanticide, un quasi-infanticide.
C'est ça, parce que Isaac n'a pas été sacrifié.
Isaac n'est pas sacrifié, mais enfin bon, voilà. nous allons nous attaquer à Lot et ses filles. Donc c'est un sujet qui est assez connu lorsqu'il s'agit de parler de l'inceste de Lot avec ses filles. Mais il y a un texte avant qu'on aimerait aborder et qui est assez perturbant également, me semble-t-il.
Voilà. Oui, parce que
tu vois duquel je parle.
Mais oui, parce que justement, quand on parle de Lot, on parle aussi de deux villes qui sont Sodome et Gomorre. Et là, on sera surtout sur Sodome. Et dans notre langage courant, Sodome a donné...
Sodomite.
Sodomite. Mmh. Et donc, justement, il y a toute la question de l'homosexualité là derrière. Mmh. Et souvent, ce récit a été associé à l'homosexualité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que il a été souvent utilisé pour condamner l'homosexualité, alors qu'on va voir, il se joue autre chose.
Tout à fait. Alors, c'est autre chose pour le Coran, hein. On va en parler aussi, parce qu'apparemment, on y viendra. Donc, Lot, pour faire court...
Ah, tu mets du suspense, là.
Oui, je fais un peu de teasing. Pour faire court, Lot est le neveu d'Abraham, puisque justement, tu vas parler d'Abraham. Ils sont sortis ensemble, en fait, riches en or et en troupeaux d'Égypte, vers le midi de Canaan.
Alors, peut-être juste une précision, c'est que le père de Lot... Haran est décédé. Ah. Et donc Lot se trouve sans père dans la généalogie biblique. Ouais. Et en fait, quand Abraham entend l'appel à partir, on va dire qu'il le prend avec lui.
D'accord.
Il le prend sous son aile. Et en fait, Lot et Abraham vont, au fil du cycle de la vie d'Abraham, vont être comme deux personnes qui se retrouvent en même temps au même carrefour, mais qui prendront des décisions différentes.
D'accord. Voilà, là, ça éclaire un petit peu leur relation. Donc, leurs bergers se disputent et donc Abraham, grand seigneur, propose qu'ils aillent chacun de leur côté. Donc l'autre chose.
Comme dans les héritages aujourd'hui, hein. Oui. C'est-à-dire que mieux vaut bien partager les choses, comme ça après les relations sont plus saines.
Tout à fait. Mais alors, comme tu dis, au moment du choix, et là ça, c'est éclairant, l'autre choisit le côté facile. C'est la plaine du Jourdain en fait, où se trouve Sodome.
Et oui, et d'ailleurs, elle est mentionnée comme étant le lieu du plaisir. C'est un rapport avec le jardin d'Éden. Mm-hmm. En fait, Lot, il voit la plaine verdoyante du Jourdain. Et vu qu'Abraham lui a laissé le choix, et ben, Lot, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend.
Bien sûr.
Et Abraham prendra une autre partie qu'il verra, qu'il admirera et il s'élancera, mais qui avait l'air moins facile, au premier abord.
Mais qu'il peut dominer, un petit peu comme quand on dit en Camargue, on monte sur une chaise, on voit tout. Là, en fait, il monte et tout ce qui l'embrasse du regard est à lui. Donc c'est une
ça.
Façon de posséder, enfin, un rapport à la terre qui est différent aussi. Hein, qui
oui.
Est, voilà. Et donc, plus tard, Abraham va être visité par des anges. Il discute, il négocie avec Dieu, hein, vraiment, c'est assez rigolo. Il marchande, donc, de 50 à 10 justes. S'il y a 10 justes dans Sodome, est-ce que ça suffira à ce que tu épargnes la ville, mon Dieu ?
Oui, parce que là, il y avait toujours une notion de jugement. Mm. C'est-à-dire que Lot a choisi la plaine facile où il y avait la ville Sodome. Mm. Et en fait, qu'est-ce qu'il se passe dans le récit ? Eh bien, Sodome, elle est vue comme une ville qui ne reste respecte pas les règles de l'Alliance, enfin qui ne respecte pas le projet de Dieu. Et donc, du coup, cette ville est toujours marquée d'un sceau négatif. Et en fait, que se passe-t-il ? C'est que Dieu décide de juger Sodome, il veut détruire Sodome, et Abraham s'interpose en disant, mais écoute, si tu trouves dans cette grande ville, si tu trouves 50 justes, tu vas quand même pas détruire toute la ville pour 50 justes.
Ouais.
Bon, d'accord, Abraham. Ouais. Et puis Abraham marchande, jusqu'à arriver à 10 justes.
À 10, ce qui est assez extraordinaire. Donc, bon, voilà. Et donc, bon, Dieu écoute ce que dit Abraham, mais il n'y a que l'épreuve du feu, si on peut dire, qui va dire ce qu'il faut faire. Et donc, ces mêmes anges qui sont apparus à Abraham arrivent à Sodome. Et tu vas lire le texte, s'il te plaît. Ça me paraît, parce que nous, on sait de quoi on parle, la plupart des gens aussi, mais peut-être qu'on pourrait le lire maintenant.
Alors, on va le lire, hein, oui. Sans problème. Mmh. Simplement, juste avant, il y a eu aussi un autre épisode où des anges, et cette fois, il y en avait trois, vont visiter Abraham. Et en fait, ces anges, quand ils visitent Abraham à Mamré, Abraham les accueille et tout, et les anges lui donnent un message, à savoir que sa femme va enfanter un fils. Et puis, Sarah, comment est-ce qu'elle réagit quand elle apprend cette nouvelle?
Elle rit.
Elle
est trop vieille.
Et oui, elle est trop vieille, dit-elle et tout. Ouais. Et puis en fait, c'est un peu une façon. Le rire, là, il a un peu de rire de surprise, mais un rire de moquerie aussi. Oui. Et les anges diront, mais on va revenir dans une année et tu verras, tu seras. Ouais.
Abraham et Sarah, ils sont tous les deux assez cool avec Dieu, il faut dire. Il y en a un qui rit, l'autre qui marchande. C'est vrai, c'est marrant quand même.
Oui, il y a une certaine
liberté.
Pour
des patriarches, quoi, voilà.
Voilà, tout à fait. Et le fils, Isaac, en fait, c'est hilari. Donc, ça fait référence à ce rire. Et si on raconte ça, c'est parce que justement, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'Abraham marchande avec Dieu. On a dit que Sarah rit quand elle entend les anges. On a dit que les anges vont à la rencontre pour partager une nouvelle. Et à quelque part, là, pour Abraham et Sarah, c'est la nouvelle du salut.
Tout à fait.
Et bien là, dans le chapitre 19, que nous allons lire, on verra qu'il y a quelque chose qui se reproduit. C'est-à-dire qu'il y a des anges qui arrivent, il y a un message qui est délivré, il y a une réaction de Lot ou des autres membres de sa famille. Et on verra qu'il y a aussi un marchandage. Et donc, on verra qu'il y a... c'est des récits qui sont comme en contrepoint l'un vis-à-vis de l'autre.
Oui, c'est vrai. Très bien.
Bien. Alors... Donc du coup, nous sommes au chapitre 19 du livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, et voici ce qui est écrit à partir du verset 1. « Les deux messagers arrivèrent à Sodome sur le soir. Or, Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot vit les messagers, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, je vous prie, faites un détour par chez moi, votre serviteur, pour y passer la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. »« Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dehors, sur la place. » Mais Lot insista tellement que les messagers firent un détour pour se rendre chez lui. Lot donna un banquet pour eux, il fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison, depuis les plus jeunes gens jusqu'aux vieillards, tout le peuple sans exception. Ils appelèrent Lot et ils lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi ce soir ? Fais-les sortir vers nous pour que nous ayons des relations avec eux, pour que nous les connaissions », dit le texte en hébreu. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et il ferma la porte derrière lui. Il leur dit, « Mes frères, je vous en prie, n'agissez pas mal. J'ai deux filles qui n'ont jamais eu de relation avec un homme. Je vais les faire sortir vers vous et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » La foule dit, « Pousse-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu tout seul en immigré et il veut le faire le juge. » Maintenant, nous allons te faire plus de mal qu'à eux. Et tout en insistant fortement auprès de Lot, la foule, tous ensemble, s'avançait pour briser la porte. Les messagers tendirent la main, firent rentrer Lot auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte. Quant aux hommes qui étaient à l'entrée de la maison, les messagers les frappèrent de cécité, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils n'arrivaient plus à trouver l'entrée. On va peut-être s'arrêter là.
Oui, d'accord.
Pour commencer, parce que je pense qu'il y a des choses à échanger, à partager.
Oui.
Hein, que penses-tu quand tu écoutes ce texte? Qu'est-ce qui te
vient? Tu vas me demander ce que je trouve scandaleux. Bon, je pense que
oui,
la réponse est dans la question, là, pratiquement, avec ce texte. Hein. Bon, on est d'accord que connaître au sens biblique, ça veut dire coucher avec. Voilà, soyons clairs.
C'est d'avoir une relation sexuelle.
Avoir une relation sexuelle, voilà.
C'est indécence possible.
C'est indécence possible. Donc, quand Lot dit aux habitants de Sodome, ne touchez pas à mes hôtes, je vais vous amener mes filles qui sont vierges, voilà, et vous en faites ce que vous voulez, c'est quand même... Il y a une lecture qui est possible, qui est d'offrir ses filles à un viol, ce qui est quand même assez énorme.
Oui.
Et alors, ce que je trouve intéressant dans l'islam, justement, je le dis tout de suite parce que sinon je vais l'oublier, c'est en fait l'islam rejette l'idée que Lot offre ses filles. Quand il dit « mes filles », en fait, il veut dire « les femmes de Sodome ». c'est comme ça qu'il l'interprète, qu'il faut préférer à des relations entre hommes. Bon, c'est un peu facile comme exégèse, mais c'est intéressant, j'ai trouvé déjà.
Oui, parce qu'on voit qu'il y a, il y a un problème là.
Oui.
Et ça nous semble complètement immoral de faire ça, c'est profondément injuste et tout. Et donc, effectivement, on se dit, mais quel est le sens de ce texte ? Donc, en disant « mes filles », ça voudrait dire que Lot qui était un étranger dans Sodome, hein, c'est-à-dire qu'il est arrivé de l'extérieur et il s'est intégré dans cette ville. Mm-hmm. Quand il dit « mes filles », ça voudrait dire, comme dans le texte, quand il dit aux habitants de Sodome « mes frères », c'est-à-dire qu'il s'est complètement intégré et il les renvoie vers les autres... de la ville.
De la ville. Hein? C'est-à-dire que tout plutôt que l'homosexualité, en gros, voilà. Plutôt c'est cette hétérosexualité qui est prônée,
alors,
on va dire.
Justement, mais moi je crois que dans cette histoire, le problème, c'est pas l'homosexualité.
Non, moi je suis d'accord, hein, mais c'est le premier sens qui apparaît, c'est ça. Et la deuxième chose, non seulement il fait ça, mais il ment en disant que ses filles sont vierges. Parce qu'après, il y a l'histoire des gendres qui ne veulent pas venir. Et comme ils ne partent que, il y a deux gendres qui ne veulent pas venir, deux filles qui viennent avec lui... C'est très étonnant, ça, cette façon de... Bon, après, peut-être que le problème de la virginité, on va le mettre à part, parce que ça fait beaucoup.
Non, mais je pense qu'effectivement, les gendres ne voudront pas sortir de Sodome. Et en fait, ça veut bien dire quelque chose par rapport à oser quitter un lieu quand il y a urgence ou quand il y a une menace à quelque part bouger, changer. Les gendres, eux, ils sont réfractaires à ça. Maintenant, est-ce qu'ils étaient déjà mariés ou pas ? Le texte hébreu permet une ouverture. J'ai vu des commentaires qui disaient ils étaient mariés et puis d'autres, ils étaient sur le point de se marier. Oui. Mais je pense que là n'est pas l'essentiel. Parce que moi, j'aimerais revenir sur le terme yada, connaître.
Oui. Hein,
donc la foule. Et on voit bien, c'est une foule compacte. Le texte nous précise, c'est des plus jeunes jusqu'aux vieillards.
Vieux, voilà,
donc, il y a une sorte de foule indifférenciée.
Oui.
Et ce qui dit bien le côté déjà violent, c'est-à-dire que chaque individu perd son identité. C'est comme une sorte de, on dit des fois, le côté mimétique dans une foule.
Oui.
Quand on est porté par une atmosphère, on serait prêt à faire des choses que si on avait un peu de sens critique et tout, rétrospectivement, on dirait on n'aurait jamais pu faire ça.
C'est la différence en anglais entre crowd et mob. Ou qui est vraiment mob, ou c'est violent, quoi.
Voilà, c'est ça. Et en fait, là, c'est vraiment mob. C'est la foule, c'est le troupeau, c'est vraiment quelque chose d'agressif. Et alors, justement, ils disent, on veut connaître ces messagers. Et yada, en hébreu, effectivement, a cette connotation sexuelle, clairement. Simplement, souvent, quand il est utilisé dans l'Ancien Testament, il est utilisé pour des rapports hétérosexuels, yada.
Ah,
les rapports homosexuels qui sont condamnés, par exemple, dans le livre de Lévitique, au chapitre 18, verset 22, au chapitre 20, verset 13, c'est un autre verbe hébraïque, c'est le verbe shakan. Donc, en fait, quand ils disent connaître, c'est pas nécessairement pour l'homosexualité. Et ça, je le dis parce que quand on dit les sodomites et tout ça, on a vraiment, on va dire, dans la tradition orale et dans notre culture, associé ce texte à une condamnation de l'homosexualité. Je pense que l'enjeu est différent. Ensuite, de yada, il y a l'idée de dominer l'autre dans ce terme, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mouvement à sens unique. Yada, ça veut aussi dire pénétrer, et c'est l'idée de, voilà, il y a un mouvement et il n'y a pas de réciprocité. Tandis que chacun, il supposerait une réciprocité. Tout ça pour dire quoi ? C'est-à-dire que quand ils disent « on veut connaître », derrière cette expression, il y a un enjeu sexuel, c'est sûr. Et puis, il y a aussi eu un type de relation sexuelle. Ce n'est pas une relation de réciprocité, mais c'est une relation de domination. Et en fait, ce qui est en jeu dans ce récit, le problème de cette foule, c'est qu'en fait, que ce soit les messagers ou que ce soit les filles que Lot propose, tous ces personnes-là sont des objets et soumis à la vindicte populaire. Et je crois que ce que pointe là le récit, c'est cette tendance qu'a la foule, quand elle devient compacte, à objectiver l'autre, c'est-à-dire à ne pas le respecter en tant qu'altérité, en tant que différence, en tant que visage, mais à ne voir qu'un objet dont il faut se saisir pour le consommer. Et donc, le problème de ce
récit... Il n'y a plus d'individus, il n'y a plus de sujets.
Il n'y a plus de sujets.
Voilà.
Et l'idée, c'est que c'est un viol collectif. C'est-à-dire
que... C'est ce que j'ai mis, d'ailleurs.
Voilà. Et c'est au fond, cette demande, elle est révélatrice de quelque chose. Et c'est ce quelque chose que veut pointer le texte, c'est-à-dire que la population de Sodome contredit les lois de l'hospitalité.
Oui.
Au lieu d'accueillir l'étranger, au lieu de le recevoir, ils viennent vers Lot, ils s'informent et ce qu'ils lui reprochent, c'est de dire « tu as accueilli des étrangers, eh bien ces étrangers, on va en faire des objets. Mm-hmm. On ne va pas les accueillir, on va en faire des objets. » Et c'est là, quelque part, le péché de Sodome.
Oui.
D'ailleurs, dans l'Évangile, alors, la ville de Sodome est souvent vue tout le temps dans les textes Ancien Testament et Nouveau Testament, elle est vue comme négative, le péché de Sodome. Et à aucun moment, le péché est associé à l'homosexualité.
Mm.
Ce que nous faisons, nous, en disant sodomite, les Écritures ne le font pas. Jamais. Par contre, il y a quelque chose de très révélateur, c'est que, par exemple, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, le Christ parle, enfin, c'est mis dans la bouche de Jésus, ses propos, mais dans quelques villes que vous entriez, donc Jésus s'adresse à ses disciples, et dans quelques villes que vous entriez et on ne vous accueille pas, sortez sur les places et dites, même la poussière qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la rendre. Je vous le déclare, ce jour-là, Sodome sera traité avec moins de rigueur que cette ville-là. Et on voit que c'est un enjeu d'accueil. Donc, le problème, au fond, c'est la question de l'hospitalité et pas l'homosexualité.
Oui. On est à la CIMADE, presque, c'est bien.
Ouais.
Voilà, on est sur l'accueil des gens qui n'ont rien, bien sûr.
Alors justement, ils n'ont pas rien, parce que ce qu'on voit, c'est que Lot, il est intégré dans cette ville.
Oui,
c'est-à-dire qu'il est dans la ville, il est sur il est à la porte, il accueille les messagers et tout. Il est celui... Quand il voit les messagers arriver, il est celui qui se lève pour aller à leur rencontre. Donc, il fait une démarche d'accueil.
Oui. Et il veut absolument qu'ils entrent chez lui, alors qu'eux n'étaient pas tellement prêts à ça. C'est ça qui était très étonnant,
oui,
ce que j'ai trouvé.
Oui.
Mais bon.
Alors ça, moi, j'ai une interprétation. C'est que, en fait, les messagers sont réfractaires. Et effectivement, le verbe hébraïque pour dire que Lot les presse d'entrer, c'est un verbe qui dit qu'on ne respecte pas la volonté de l'autre. Donc, on voit que Lot, là, il fait aussi, domination sur les étrangers.
Oui.
Mais pourquoi les étrangers sont-ils réfractaires? C'est parce qu'ils n'ont pas le même enjeu que les messagers qui allaient rencontrer Abraham et Sarah pour leur annoncer la naissance d'un fils.
Non.
Eux, les messagers, quand ils arrivent à Sodome, c'est avec une parole de jugement.
Tout à fait.
C'est qu'ils annoncent là le jugement, comme Jonas, le prophète, qui arrive à Ninive et il dit encore 40 jours et cette ville sera détruite. Les messagers, là, dans le récit, ils ont un rôle de jugement.
Oui.
Et donc, ils ne sont pas là pour aller, dans la ville, se faire accueillir, passer du bon temps avec Lot et tout.
Oui.
Ils sont là pour annoncer une parole qui avise à rappeler chacun à sa conscience.
Oui.
Donc, ils résistent à se faire inviter.
Oui. De soufre et de feu.
Et oui.
Hein? Juste là, une petite incise.
Oui.
J'ai vu que il n'y a pas très longtemps, en 2021, ils ont publié un article où ils parlaient de ce que serait où l'emplacement de Sodome, en fait.
Oui.
Hein? Tu as dû le lire. Ça s'appelle Tal El Hammam, apparemment, en Jordanie. Et on pense qu'il y aurait une météorite ou une comète qui serait tombée dessus, ce qui aide à comprendre un certain nombre de choses. Bon, si on ne veut pas adhérer à la version biblique, bien sûr. Hein?
Mais c'est toujours le problème, en fait. Derrière cette destruction, vraisemblablement, il y a eu un phénomène naturel, c'est-à-dire que la ville de Sodome a dû subir quelque chose qui l'a détruite. Et en fait, pour comprendre cela, eh bien, les humains ont élaboré quelque chose autour. Mais que ce soit une météorite, moi j'avais lu d'autres théories qui disaient que c'est une région aussi où il peut y avoir du soufre, parce qu'il y a aussi de l'eau qui s'évapore, le sel reste, et puis il y a des cavités qui restent avec du soufre, avec différents éléments, et par moments ça peut provoquer des décompensations.
Ce qui expliquerait,
voilà, mais tout ça, je veux dire, c'est des suppositions, on n'est absolument pas, certains. Et d'ailleurs, ce récit, le but, il n'a pas pour but d'expliquer.
Non, bien sûr.
Je pense qu'il met en récit des enjeux qui sont, on va dire, profondément, qui traversent nos personnalités. La question de l'accueil, par exemple.
Ouais.
Et ce qui est intéressant, c'est de l'avoir, la manière dont c'est raconté.
Tout à fait.
Plutôt que de chercher le phénomène historique qui avait...
Bien sûr. Mais ce sont des questions qui traversent l'humanité aussi et qui sont très actuelles. D'où une petite chanson qu'on va entendre de Nino Ferrer.
Depuis quelque temps, des bruits courts, des signes apparaissent. Dans les faubourgs de Gomorre, on ressent l'angoisse. Dans les palais de Sodome, les escaliers glissent. Les murs suintent des limaces et l'air sent la pisse. Bientôt Sodome et Gomorre. On s'enfuit par un dédale de tunnels gluants. Des milliers de rats détalent sous nos pas tremblants. L'un de nous glisse et s'étale dans un trou béant. Et tous les autres s'affolent vers l'évacuation. Fuyons Sodome et Gomorre, leur futile dépravation. Avant que l'horreur s'écroule et qu'on reste pris dedans.
Dans cette chanson, ce qui est très amusant, je trouve, c'est qu'à la fin, Nino Ferrer compare en fait l'œil de Sodome et Gomorre. On se croit avec Caïn et la caverne. Et donc, il y a un œil de culpabilité en fait dans Sodome et Gomorre, dans sa chanson, bien sûr, dans son interprétation. Donc, c'est amusant parce que quand on pense à Nino Ferrer, on pense pas spécialement à Sodome, on va dire.
Non.
Voilà,
non,
quelque chose d'un mais sujet c'est... aussi biblique.
Mais oui, mais c'est là qu'on voit
c'est
que
ça
Sodome...
traverse les. Ouais.
Alors, la ville de Sodome, ce à quoi elle fait référence, ça traverse, on va dire, toute notre culture. Et puis, c'est un côté négatif.
Complètement.
Sodome, c'est vu comme étant vraiment la ville de malédiction. C'est le côté obscur. Et aujourd'hui, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a Sauron qui est justement. Le maître du mal et tout. Donc, il y a toujours cette figure négative qui nous interroge. On est un peu perplexe par rapport à ça. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé un midrash. Un midrash, c'est un petit commentaire que font les rabbins qui n'est pas biblique, mais qui donne un message. Et ce commentaire, il raconte que les étrangers étaient bienvenus dans la ville de Sodome et de Gomorre. Tous les lits de la ville étaient en fait à une dimension réglementée. Un lit, du coup, était mis à disposition des nouveaux arrivants. S'ils étaient plus petits que la longueur du lit, on prenait les arrivants et on les allongeait en les écartelant jusqu'à ce qu'ils atteignent parfaitement la longueur du lit. Et s'ils étaient plus grands que la longueur du lit, on leur coupait les pieds jusqu'à atteindre, à ce qu'ils atteignent parfaitement la longueur du lit. Voilà l'accueil à Sodome. Alors, ce midrash, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il fait référence aussi à la tour de Babel. La tour de Babel où les hommes commencent à fabriquer des briques. Mmh. Et les briques ont plus de valeur que les humains en tant que tels. Et il y a aussi un midrash qui disait « Quand une brique se cassait, on était tout effondré. Mais quand un des ouvriers qui montait la brique tout au haut de la tour se cassait la figure, on ne s'arrêtait pas de travailler, il fallait continuer de travailler.
» Et ça annonce le Christ avec son corps qui sera les pierres du temple, en fait. Bien plus important que les pierres du temple.
Ah, bah voilà.
Peut-être. Enfin, je ne sais pas si,
mais oui,
si on file la métaphore.
Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit que là, le lit, au sens la norme qui était faite, il fallait entrer dans cette norme. On les accueillait, on leur donnait un lit, mais il faut que tu entres dans la norme.
Voilà.
Il faut absolument pas que tu sois étranger, que tu sois différent. Et donc, ce midrash, il vient pointer que derrière cette attitude des gens de Sodome vis-à-vis de Lot et vis-à-vis des messagers, c'est vraiment comment est-ce qu'on accueille la différence, comment est-ce qu'on accueille l'autre qui arrive dans notre ville pour nous dire aussi une parole qui va nous déranger, qui va nous interpeller.
Bien sûr.
Alors, donc on était arrivé où dans notre récit? C'est qu'il y a la foule qui cherche, qui veut avoir les messagers pour pouvoir les connaître, on avait dit.
Absolument.
Et alors comment réagit
Et alors Dieu, il les éblouit, mais il les éblouit au sens de les rendre aveugles en fait.
Oui.
Et je trouve qu'il y a beaucoup dans ce récit de portes, de seuils qu'on franchit, qu'on ne franchit pas, de cécité. Alors je ne sais pas du tout, j'ai du mal à comprendre ça. J'ai du mal à comprendre pourquoi il ne voit plus plu la porte de la maison de Lot. Bon, c'est une intervention divine, on est d'accord, miraculeuse, très bien.
Oui.
Mais est-ce que le fait que ça frappe la porte a un sens ou pas ?
Bien sûr.
D'accord.
La porte, c'est justement le seuil, c'est le lieu de franchissement. C'est que je te reçois chez moi, je vais chez toi. La porte, c'est aussi le lieu qui marque l'entrée de la ville, la sortie de la ville. Il y a toute une symbolique là derrière. D'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au départ, Lot, il est aux portes de la ville.
Il est à la porte de la ville, c'est ça, pas la porte de chez lui. Ouais,
tout à il fait. Est le seul à se lever, on a dit, pour aller à la rencontre des étrangers. Et en fait, quand la totalité des hommes vient entoure sa maison et qu'il cherche cette totalité des hommes de Sodome cherche à mettre la main sur les messagers, que fait Lot ? D'abord, avant que la foule soit frappée de cécité, que fait Lot ? Il sort.
Blanc, ah oui, il sort tout à fait.
Il sort.
Oui, et il va négocier avec eux.
Ouais. Mais c'est incroyable ça. Alors là, pour le coup, Lot, je vais le décrire assez négativement par la suite, mais là, pour le coup, je lui tire mon chapeau parce qu'il y a la foule, il faut l'imaginer, la foule en colère, la foule mob, hein, comme tu disais, menaçante.
Tout à fait.
Il va à sa rencontre. Tu sais que ce récit que nous lisons dans Genèse 19, en fait, il a un parallèle dans les Écritures qui est en Juges, dans le livre des Juges, chapitre 19, où il y a un même enjeu, où il s'agit qu'il y a une foule qui demande un vieillard qui accueille un lévite de passage. La foule devient menaçante et elle demande au vieillard de lui livrer le lévite de passage pour que ils en prennent bien soin, voilà. On va dire. Et qu'est-ce que fait le vieillard ? Il ne sort pas donner sa réponse. Lui, il ne sort pas.
Ouais.
C'est trop dangereux, c'est trop risqué. Tandis que nous voyons que Lot, au lieu de répondre de l'intérieur de sa maison vis-à-vis de la foule menaçante, lui, Lot, il ose aller au contact. Et quand il... Alors ça, d'abord, ça, c'est preuve de courage. Ensuite, quand il arrive vers la foule, la première chose qu'il dit, c'est « mes frères ». Et ce faisant, Lot, l'étranger, dit aux habitants de Sodome, mes frères, comme si lui était devenu un habitant à part entière.
Intégré à la communauté, oui.
Sauf que la foule dit, non mais attends, il se prend pour un juge, ça reste un étranger. La foule le renvoie à son statut d'étranger, de quelqu'un qui ne fait pas partie d'eux. Et alors, donc, le courage de Lot, on pourrait en rester là, sauf que notre ami... Au lieu, là, de tenir tête ou de... Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, là, il descend profondément du piédestal où on vient de le placer parce qu'il dit, finalement, tenez, moi, j'ai deux filles. Je peux vous les soumettre à votre pâture, à votre violence bestiale. Et là, on se dit, non, mais Lot, pour respecter le devoir d'hospitalité, tu es prêt à tout, mais c'est incohérent. Voilà. Et donc, du coup, alors que on était en train de voir Lot courageux par rapport à ce vieillard dans le livre des Juges 19 qu'on n'osait même pas sortir, eh bien, on voit que son tempérament héroïque, eh bien, il fond comme neige au soleil. Lot voulait protéger les serviteurs. Eh bien, c'est les serviteurs, les messagers, qui vont le protéger
lui,
frappant de cécité la foule. Et alors, cet éblouissement, il est magnifique. Il est magnifique. Tu sais pourquoi ?
Non, aucune idée, vraiment. Ouais. Est-ce que c'est un manque de foi ou est-ce que c'est... Non, ou une plongée dans le vice ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas comment l'expliquer du tout.
Eh bien, en fait, c'est comme si la foule ne voyait plus rien, perdait son discernement. Elle ne voit plus la porte, elle ne sait plus comment rentrer. C'est-à-dire tellement aveuglée, tellement fusionnelle, on perd toute notion de repère.
Les repères, ouais.
Et donc, même les choses qui sont là devant nous, on ne les voit plus. Et au fond, les messagers, quand ils frappent d'éblouissement, c'est pas simplement une foudre qui, on va dire, anéantit la foule.
Non, ça sera pour plus tard.
Oui, tandis que là, c'est un éblouissement. Et qu'est-ce que fait la foule ? Eh bien, finalement, elle se disperse.
Oui.
C'est-à-dire que le jugement, les messagers étaient venus pour une parole de jugement. Le jugement de Dieu, c'est ça. C'est un éblouissement qui vient nous stopper pour nous empêcher de commettre l'irrémédiable, en fait.
Oui.
Qui vient nous stopper dans ce mouvement de vindicte populaire et qui fait que ça vient complètement arrêter le moteur négatif qui nous poussait à commettre le crime.
Oui.
Et la foule se disperse.
Oui.
Et puis l'éblouissement, ça peut être aussi cette démarche où ils ne voient pas la porte. C'est-à-dire que leur pulsion est tellement, les fascine tellement qu'ils n'en voient plus le seuil qui leur permettrait d'entrer ou de
oui.
sortir.
Mmh. Oui, ça j'entends bien et je trouve que oui, ça répond tout à fait aux interrogations que j'avais. En revanche, comment est-ce que Dieu peut avoir encore envie de sauver Lot après ça ? Enfin, c'est quand même, je trouve, je sais pas, quelque chose contre l'idée de la famille, l'idée de...
Mais parce que Dieu ne cherche pas à nous sauver parce qu'on le mériterait ou pas.
Non, ça c'est vrai.
C'est qu'en fait, il y a...
Oui, mais lui, il est le seul sauvé, un petit peu comme Noé et son arche.
Oui.
Bon, après, Noé se montrera nu et boira devant ses enfants. Donc effectivement, Dieu ne sauve pas que des êtres parfaits.
Oui, c'est ça.
C'est sûr.
Mais tu vois, la figure de Lot qui sort pour protéger, eh ben en fait... Très rapidement, c'est lui qui a besoin de protection. Et c'est les messagers. Il voulait protéger les messagers, mais c'est en fait les messagers
c'est
qui le
tout
protègent.
À fait.
Et l'histoire continue.
Oui. Il tarde à partir d'ailleurs.
Alors c'est ça qui est intéressant.
C'est ça qui est étonnant aussi.
C'est tout à fait étonnant parce que, après, effectivement, les messagers, ils lui disent mais il faut partir.
Mm.
Et Lot, qu'est-ce qu'on le voit ? Comment est-ce qu'on le voit ? Eh bien, il traîne les pieds.
Oui.
Il le sent pas, il n'est pas prêt. Donc, on voit aussi qu'il y a une insistance des messagers et on voit la figure de Lot comme étant non pas un Abraham qui dit « me voici », mais un messager indécis.
Oui.
Donc, Lot qui se veut héros, mais qui se retrouve au contraire avoir besoin d'aide parce qu'il ne tient pas du tout son rôle.
Oui.
Lot indécis, on voit bien aussi que la figure de Lot est une figure... ambigu, c'est une figure, on va dire, subtile, complexe, mais qui montre aussi un personnage qui choisit Sodome parce que c'était la plaine luxuriante, mais en fait, ça se révèle être une catastrophe, cette ville. Enfin,
ouais.
Un homme qui manque de discernement.
Il manque de discernement, quand même, oui, tout à fait.
Alors, après, il y a ce que je trouve intéressant, c'est que les gendres, ils ne croient pas à la prophétie.
Pas du tout, même, oui.
Hein, et ils disent à Lot, mais t'es un plaisantin.
Tout à fait.
Et là... Moi, ça me fait penser à Sarah qui a ri. C'est-à-dire que quand il y a une parole adressée des messagers, Sarah rit et les gendres rigolent.
Aussi, oui, tout à fait.
Et là, ça veut dire que la parole des messagers, que ce soit une parole de salut, une parole de jugement, ça suscite, dans les récits, ça suscite aussi le rire au sens...
Elle n'est pas crue, cette parole,
non.
Du tout. Elle n'est pas admise. Et c'est vrai, Sarah d'un côté et la femme de Lot de l'autre, à qui on dit de ne pas se retourner et qui se retourne.
Oui, sauf que la femme de Lot, elle n'a aucune épaisseur dans le récit.
Aucune, non.
On ne sait pas son nom.
Ce qui est très étonnant, d'ailleurs, je trouve.
Elle ne parle pas. On ne sait même pas son nom. Et d'ailleurs, on pourrait lui dire « pauvre femme de Lot
»,
parce que l'adresse des messagers pour dire « il ne faut pas te retourner », l'adresse, elle n'est faite qu'à Lot.
Qu'à Lot, tout à fait.
Et Lot, on ne le voit à aucun moment dire à sa femme, ne pas te... Et peut-être qu'ils n'ont pas communiqué entre eux.
Oui.
Dans ce couple, il n'y a pas de parole qui circule.
Oui, c'est vrai.
Lot qui fait pression sur les messagers pour les faire entrer. Lot qui ne parle pas avec sa femme pour lui transmettre des informations super importantes. Et puis cette femme qui n'a aucune épaisseur, si ce n'est qu'à un moment donné, elle se retourne et claque. Elle est figée en statut de sel.
Ouais. Alors, c'est vrai que c'est commode, on va dire, qu'elle soit changée en statut de sel et que les gendres ne viennent pas. Parce que ça permettra l'inceste dans la grotte, dans le deuxième texte dont on parlera. Je veux dire, ça paraît... Voilà, alors, bon, je suis désolée, hein, c'est peut-être un peu terre-à-terre de le dire comme ça, mais il y a quelque chose qui m'interroge là quand même. Cette façon d'effacer un petit peu les personnages qui gênent pour la suite du propos, c'est...
Alors, est-ce que c'était voulu ? Est-ce que tout ça a été mis en place pour que le récit de l'inceste puisse advenir ? On va voir ça dans une prochaine émission.
Oui,
hein ?
Tout à fait.
Mais là, ce que je...
encore un petit peu, 5 petites minutes. Hein, voilà.
Oui, mais ce que je voulais dire alors, par rapport à la femme de Lot, parce que si tu es d'accord, l'inceste, on en parlera la prochaine fois. Mais par rapport à la femme de Lot, ce que je voulais pointer, c'est que, en fait, elle regarde en arrière et elle est figée en statut de sel. Bon. Abraham aussi, dans le récit, à la fin, Abraham aussi, il est mentionné qu'il regarde. Mais lui, il n'est pas figé en statut de sel. C'est-à-dire que ce n'est pas le regard en arrière qui est condamné en soi.
D'accord.
C'est pas de regarder derrière qu'il ne faut surtout pas faire.
C'est ce qu'on a beaucoup entendu, en tout cas, comme exégèse. Oui, non, c'est bien. Enfin,
mais il y a un regard en arrière qui fige, comme la femme de Lot. Mais il y a un regard en arrière, comme Abraham, qui y voit, en fait, la trace d'une parole et qui écoute cette parole et continue de s'ouvrir à l'avenir.
Oui. Ce qui est tout à fait différent. Et pourquoi, ça sera peut-être parmi mes dernières questions, pourquoi un statut de sel et non pas un statut de pierre ? Ça paraît idiot, mais
bien sûr.
C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée aussi.
Le sel, il y a une dimension symbolique dans le sel. Hein. Le sel, c'est...
La mer morte.
Alors, la mer morte, bien sûr, qui s'évapore et qui fait qu'il y a beaucoup de sel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand tu vas te promener dans la région, il y a des colonnes de sel.
Oui,
et, tout à fait. Certains guides disent, ben voilà, la représentation de la femme de Lot. Mais derrière le sel, il y a un enjeu de purification. On aspergeait de sel aussi certains sacrifices. Ou bien la terre autour des autels où allaient se faire des sacrifices, c'était un geste de purification. Le sel, c'était aussi, il y a un côté positif dans le. Vous êtes le sel de la terre.
Oui, c'est ça. Oui, je pense qu'il y a un côté symbolique extrêmement fort.
Oui.
Ouais. Et dans cette histoire de regarder en arrière, j'y reviens juste, parce que ce qu'on lit souvent aussi, c'est que donc dans Luc 17, 28, 32, Jésus fait référence à la femme de Lot. En fait, quand les pharisiens lui demandent quand arrivera le royaume de Dieu, il dit le retour du Fils de l'homme sera comme le feu et le soufre qui ont brûlé Sodome. Et à ce moment-là, il ne faudra pas se retourner. Quand il y a une parousie, enfin la parousie, ça, c'est pas assez différent.
Oui. Mais oui, parce que la parousie nous fait, il y a c'est l'irruption, l'avenir de Dieu.
Tout à fait.
Et il y a déstabilisation, il y a relativisation de tout ce qu'on vit et tout ce qu'on connaît, mais c'est pour que l'avenir puisse nous atteindre, nous rejoindre. Et donc dans ces moments-là, c'est un enjeu de repentance, de se tourner vers cet avenir et de faire corps avec lui, parce que c'est cet avenir qui nous entraîne dans l'espérance.
Oui.
Et qu'il y a toujours une façon de regarder les choses à partir de l'expérience que nous en avons. Mais la parousie, l'espérance, c'est de nous ouvrir à quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui advient dans notre quotidien. Et c'est comme l'enjeu de la résurrection. C'est un événement qui ne nous appartient pas. C'est pas par expérience qu'on peut imaginer la résurrection. C'est de s'ouvrir à quelque chose qui nous vient de l'avenir, en fait. Mais c'est quelque chose, c'est une promesse, c'est un accomplissement, c'est la gloire qui nous attend. Et donc, du coup, l'enjeu, là, c'est de rejoindre cela sans se... laisser ligoter par tout ce qu'on a connu.
Oui. C'est une conversion au sens propre.
Oui.
Ouais. Mais tu nous as remarquablement sorti d'affaire parce que ça n'était pas gagné. Et je crois qu'on peut s'arrêter là, moins que tu veuilles encore ajouter quelque chose.
Mais écoute, moi je te remercie de choisir ces textes-là qui sont des textes redoutables, mais qui nous permettent comme ça de sonder le trésor de ces écritures.
Très bien. Merci. Au revoir.
C'était La Bible Parfum de Scandale, à retrouver en podcast, en écoute à la demande ou téléchargement gratuit sur radiofmplus.org.